On va calculer un peu. En ne comptant que moi, j'ai de quoi tenir 300 sols que je dois pouvoir allonger à 400 en me rationnant. Donc, il faut que je trouve le moyen de cultiver assez de nourriture pour 3 ans. Sur une planète où rien ne pousse. Par chance,
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je suis botaniste.
Les curieux sont sur RTL.
Mars finira par avoir peur de mes pouvoirs de botaniste.
Extrait du film Seul sur Mars, un film de Ridley Scott. Évidemment, c'est une fiction parce qu'on n'est pas encore allé sur Mars. En tout cas, des robots sont sur Mars. On a d'ailleurs un robot français qui a atterri il y a quelques mois et qui a donné des nouvelles. On va vous raconter ça. Bonjour Sylvain Chatty.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Soyez le bienvenu. Vous êtes astrophysicien à l'Université de Paris et votre boulot, c'est d'étudier les planètes et les objets célestes. On vient d'avoir justement des nouvelles de ce robot français qui s'appelle InSight. Il a enregistré, peut-on lire, 500 frémissements souterrain. Qu'est-ce que signifie cette découverte pour des profanes comme nous ?
Sur Mars, hein, c'est ça ?
J'ai dit oui, sur Mars. Ouais.
Tout à fait. Alors, c'est un robot, en fait, c'est une mission américaine, hein, pour te préciser quand même, avec un sismomètre français.
Ouais.
Voilà. La technique est française, c'est ça ?
La technique du sismomètre est française, par contre, tout le reste est américain. Mmh. Et en effet, il a détecté, on va dire, 400 frémissements, mais en fait, ce qui correspond à 40 tremblements de terre martien, donc tremblement de Mars en fait, depuis un peu plus d'un an qu'il est sur place. Donc,
et c'est
en fait,
étonnant parce qu'on croyait que c'était une planète un peu géologiquement morte, c'est ça Mars ?
En fait, on savait pas trop. On s'attendait quand même à ce qu'il y ait quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a quand même poussé pour construire un sismomètre. Et en effet, on détecte des tremblements de terre martiens. Donc ça veut dire qu'il y a en effet quelque chose au centre de Mars. Et ça, on le connaît pas bien, le centre de Mars. Il y a quelque chose au centre de Mars qui bouge et qui vit encore.
Ça pourrait être quoi ?
Bah comme au centre de la Terre, il y a quelque chose qui, il y a une graine qui tourne au centre de la Terre et qui crée un champ magnétique et qui est là depuis 3 milliards d'années. Et bien sur Mars, probablement qu'il y a eu quelque chose d'assez similaire au départ, mais qui a évolué différemment de ce qu'on a aujourd'hui sur Terre.
Alors, on va essayer de voir si on peut coloniser un certain nombre de planètes de notre système solaire. On commence avec Mars. Vous nous rappelez où elle est située, quelle taille elle fait ?
Alors Mars est plus petite, un peu plus petite que la Terre. En gros, elle est typiquement la moitié de la taille de la Terre. Elle est à peu près une fois et demie plus loin que la Terre du Soleil. Donc c'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins de luminosité solaire, de chaleur solaire aussi. Mars est une planète qui a une atmosphère très très ténue, qui correspondrait à peu près à ce qu'on aurait si on allait à 50 km d'altitude sur Terre. Donc en gros, vous prenez un avion, puis vous, ce qui n'est pas recommandé, mais vous ouvrez la porte de l'avion et vous sortez, vous avez à peu près l'atmosphère martienne, si vous voulez. Donc ça veut dire que c'est pas respirable, il y a pas d'oxygène. Vous mourrez directement si vous sortez comme ça sur Mars.
C'est accueillant Mars pour l'instant alors.
Pour l'instant, c'est très accueillant.
D'accord. Il fait froid aussi, non ?
Voilà, il fait entre moins 100 degrés l'hiver et vous atteignez 0 degré le 21 juin au solstice d'été à midi.
Ouais.
Là, on sort en maillot, hein, franchement.
Voilà, vous sortez en maillot. Alors, par contre, il y a des super paysages. Il y a le plus grand volcan du système solaire avec 28 km d'altitude, donc pour les trekking c'est génial.
Ouais.
Il y a des canyons, il y a des rivières asséchées, tout ça c'est asséché bien sûr.
Parce qu'il y a de l'eau, mais l'eau elle est sous quelle forme sur
Alors,
Mars ?
Alors il y a eu à un moment donné sur Mars beaucoup beaucoup d'eau qui a coulé en grande quantité, mais aujourd'hui il n'y a que de l'eau sous forme de glace, donc il y a des calottes polaires, et on pense qu'il y a aussi de l'eau dans le sous-sol martien, mais aussi sous forme de glace, pas d'eau liquide, aucune eau liquide.
Pourquoi on la surnomme la planète rouge ?
Bah parce qu'on la voit rouge.
Sous cette couleur-là,
voilà,
mais alors la question c'est plutôt pourquoi on la voit rouge.
Bah voilà. Parce qu'en fait, y a beaucoup elle est très oxydée, donc il y a beaucoup d'oxyde de fer en particulier qui donne cette couleur rouge, un peu comme de la rouille si vous voulez.
Ouais.
C'est un peu ce type-là. Donc c'est de l'oxyde principalement.
Et il y a beaucoup de vent aussi sur Mars, c'est ça ?
Et il y a en effet des vents très forts. Alors, il faut un peu relativiser.
Parce qu'on dit que c'est des vents qui déplacent carrément le paysage, c'est vrai ou pas ?
Seul sur Mars, la tempête au départ. Bon, c'est bien parce que c'est hollywoodien, mais en fait, l'atmosphère étant très ténue, il y a très peu d'air. Donc du coup, il y a en effet des tempêtes qui peuvent couvrir, des tempêtes de sable qui peuvent couvrir la globalité de la planète Mars. Mais si vous êtes là-bas, vous n'allez pas être terrassé par un vent très fort. Il ne faut pas exagérer quand même.
De toute façon, on sera mort dès qu'on pose le pied
à
l'extérieur.
On suppose que vous avez un scaphandre. Voilà. Vous pouvez respirer dans le scaphandre.
Sylvain Chatty, vous publiez La colonisation de l'espace, c'est aux éditions CNRS. Et l'une des premières questions à se poser, si on doit choisir une planète à coloniser, c'est évidemment comment on y va. C'est compliqué d'aller sur Mars, c'est long.
Bah, ça prend 6 mois. Ouais. En gros, alors faut choisir la fenêtre. Donc en gros, il y a une bonne fenêtre tous les 2 ans, parce qu'il faut que Mars soit près de la Terre. Donc ça prend 6 mois pour y aller. Et en effet, le voyage est un peu semé d'embûches, parce que dès que vous sortez de la Terre, on s'en rend pas compte qu'on est sur Terre, mais on est très protégé. En particulier par cette graine dont on parlait tout à l'heure, qui crée un champ magnétique. Ça empêche toutes les particules dangereuses qui proviennent du Soleil d'arriver sur Terre.
Ah, on est protégé par ça. D'accord. Oui. Non, on pense que c'est l'atmosphère, mais pas du tout. C'est la graine de la Terre.
Exactement. C'est ce qui tourne au centre de la Terre qui crée ce champ magnétique qui nous protège. L'atmosphère toute seule, l'atmosphère nous protège aussi, mais d'autres d'autres particules de l'ultraviolet par exemple. Oui. Mais là, c'est les particules qui proviennent du Soleil qui sont dangereuses, qu'on appelle des rayons cosmiques, qui sont des particules ionisantes. Et ça crée des mutations, ça crée des cancers. Donc c'est pas très bon pour la santé.
Et oui. Donc pendant le voyage, les astronautes subissent ces radiations.
Exactement.
C'est ça.
Ah, alors c'est déjà un peu ce que peuvent subir les astronautes qui sont dans la station spatiale, ceux qui sont seulement à 400 km d'altitude, ils ne sont pas très loin. Par contre, si vous allez sur Mars, là vous êtes complètement en dehors de la Terre pendant au moins 6 mois de voyage, 6 mois de retour et le temps que vous passez sur place.
Mmh. Sylvain Chatil, il y a un autre problème aussi sur Mars, c'est la gravité. Pour nous, c'est normal de marcher sur la Terre, enfin tout simplement, mais ce n'est pas une évidence sur Mars. Pour quelle raison?
Oui, la gravité est à peu près un tiers plus petit que sur la Terre.
Et sur notre corps, ça donne quoi?
Sur notre corps, on ne sait pas trop parce qu'on n'a jamais passé beaucoup de temps sur Mars.
Mais c'est-à-dire qu'on flotte, on marche au-dessus de...
Non, vous ne flottez pas. Vous souvenez des films sur la Lune où on a l'impression qu'ils sautent un petit peu tout en flottant.
La Cité de l'Espace avec Thomas, la Cité de l'Espace de Toulouse, on peut simuler cette marche.
C'est un petit peu ça, sauf que vous flottez un peu moins quand même que sur la Lune. Il y a plus de matière, il y a plus de masse.
Mais donc ce n'est pas bon pour les os ou les muscles?
Non, ce n'est pas bon sur les os. C'est pas bon pour les os. D'ailleurs, c'est ce que ressentent les astronautes quand ils vont sur la station spatiale. Il y a les Russes, par exemple, sont restés plus d'un an, certains Russes, sur la station spatiale ou sur la station Mir. Et en revenant, il y a des problèmes d'ostéoporose, il y a des problèmes, les os, les muscles. Alors qu'ils font 8 heures de sport par jour, les muscles et les os sont affectés.
Pour l'instant, vous y allez seul, Thomas, je vous dis sur Mars.
C'est sympa.
Vous envoie un éclaireur.
Bonjour, la solidarité, on n'aurait pas fait la guerre
mais
ensemble.
Si, mais je reste ici, je tiens le bureau, moi.
C'est sympa. Et pourtant, malgré tout ce que vous venez de nous expliquer, Sylvain Chatil, il y a le PDG de SpaceX, Elon Musk, qui dit je veux coloniser Mars, 1 million d'humains d'ici 2050 sur cette planète.
C'est une folie.
C'est de la pub. Comment vous recevez ça, vous qui êtes astrophysicien?
Alors, donc ça, c'est dans 30 ans, c'est ça, si je compte bien. Je viens de lire un livre sur Kepler, qui est un ancien astronome historique. Un livre qui a été écrit en 1989. Mmh. Et dedans, il y a une histoire où il raconte des gens qui sont installés sur Mars en 2019. Donc d'ici 30 ans.
Bon, d'accord. Ça répond à la question.
Capitaine!
Oui, que se passe-t-il?
Regardez là, sur l'écran de contrôle. Regardez bien.
RTL.
Y'a rien. Y'a rien du tout. Regardez. Là.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
J'essaye de mettre un peu de suspense, capitaine.
Avez-vous spatiothermisé les volets intersidéraux?
Oui, capitaine.
Avez-vous rayonisé les aéroporteurs sismiques?
J'ai demandé à Roscoff de le faire, capitaine.
Avez-vous fait du café?
Je ne comprends pas, capitaine.
Avez-vous lyophilisé les grains d'atomes caféinés sous pression hydraulique filtrée?
Ah oui, capitaine.
La curiosité est un vilain défaut.
Parodie de Star Trek par les inconnus. Nous, on se pose de vraies questions scientifiques.
On part avec eux. Hein.
Avec les sketchs. Ouais. Que je ne leur confie pas les commandes du vaisseau, ça ne serait pas raisonnable. En revanche, je veux bien confier la préparation de la mission à notre invité, l'astrophysicien Sylvain Chatil. Vous travaillez à l'Université de Paris et vous vous posez cette question de la colonisation d'une planète, du système solaire. Pourquoi on se posait la question? Qu'est-ce qui pourrait nous obliger à quitter la Terre? Je vais penser évidemment au réchauffement climatique, à cette sixième extinction de masse dont parlent certains.
Oui, alors il y a en effet plusieurs causes. Hein. Vous avez parlé du dérèglement climatique, en effet, c'en est une. La pollution.
Ouais. C'est-à-dire que la Terre serait invivable, ou avant qu'elle le devienne, il faudrait commencer à... Voilà,
oui, la chute de la biodiversité, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on doive partir. Il y a aussi des causes endogènes, c'est créé par l'homme. Il y a aussi des causes exogènes, on peut se ramasser un gros astéroïde sur la tête.
Là, ça va être un peu tard pour déménager, enfin je veux dire...
C'est pour ça qu'on prévoit, d'ailleurs, il y a des missions qui prévoient de dévier un astéroïde, de trouver une solution pour justement s'en protéger.
Et c'est pour ça que vous, l'astrophysicien Sylvain Chatil, vous regardez aussi, vous essayez de voir où est-ce qu'on pourrait s'installer. On a vu Mars, c'est pas le plus simple, il fait froid, il y a du vent, l'eau est gelée, il y a des particules ioniques.
J'ai pas pris mon billet encore, moi,
pour
Mars.
Voilà, donc là, j'hésite un peu. C'est pas possible, mais la Lune, alors on y a déjà mis le pied, ça tombe bien, on la connaît un peu, c'est pas très loin.
Non, c'est 4 jours de voyage.
C'est bien.
En gros, en une semaine, vous avez fait l'aller-retour.
Oui, voilà, pas mal. Combien de temps d'ailleurs pour si on veut communiquer avec la famille qui est restée sur Terre, on peut...
Là, c'est facile, c'est une seconde.
Oui.
1,2 secondes. Vous dites allô, 2,4 secondes plus tard, vous avez le halo du lunaire.
Alors que
sur Mars, c'est beaucoup plus long. Alors ça dépend de où est Mars par rapport à la Terre, mais ça peut prendre en gros entre 20 minutes et 1 heure à peu près.
Oui, c'est quand même une dimension
aussi
importante.
Donc le halo, 2 heures plus tard, vous avez le...
Donc pour la communication, le voyage, c'est bien. Est-ce qu'il y a de l'eau d'ailleurs sur la Lune?
Il y a un petit peu d'eau. qui se trouve dans les cratères, au fond des cratères qui sont sur les pôles lunaires. Et c'est de l'eau, bien sûr, glacée aussi, comme, comme sur Mars. Donc il y en a un tout petit peu.
Donc ça veut dire que si on devait installer une mission humaine sur la Lune, il faudrait forcément aller de ce côté-là, sur l'un des deux pôles.
Alors, c'est, en fait, de l'eau. Oui, en fait, c'est même l'idéal parce que ça permet d'avoir un ensoleillement qui est quasiment permanent.
Oui.
Parce que sinon, si vous êtes n'importe où ailleurs sur la Lune, vous avez une nuit qui dure 15 jours. 14 jours. Ouais. Et donc, du coup, la nuit est longue. Pendant ce temps-là, les batteries ne sont plus rechargées. Donc, il vaut mieux être en effet près des pôles. À ce moment-là, l'ensoleillement est permanent et vous avez de l'énergie tout le temps.
Vous êtes un bon agent immobilier spatial, Sylvain Châtier. Pour l'instant, moi, je suis hyper tentée par la Lune. Ouais. Mais il y a aussi une chose à laquelle il faut penser, c'est que si on va s'installer là-bas, on ne peut pas venir avec nos briques, etc. Il faut fabriquer de la roche qui est sur place. Est-ce que ça fonctionne?
Ah bah alors, la Lune, c'est l'idéal parce qu'il y a de la roche partout. Il y a ce qu'on appelle le régolithe, qui est de la poussière qui est créée par les météorites qui tombent sur la Lune. Mmh. Donc, on peut l'utiliser. Alors, ce qu'il faudrait, c'est amener du matériel pour construire des imprimantes 3D. Et ensuite, avec le régolithe de la Lune, on peut se construire des bases lunaires, on peut se construire plein de choses.
Mais ce régolithe, on avait découvert ça à l'Expo Lune, à la Cité des sciences et de l'espace à Toulouse.
Oui.
Il a quand même un gros inconvénient. Lequel ? Est-ce qu'il est abrasif, c'est ça ?
Oui. Oui, c'est ce qu'avaient remarqué les astronautes d'ailleurs quand ils sont allés sur la Lune. En effet, il colle le vêtement et il est abrasif.
Oui.
Donc oui, il y a du traitement à faire pour récupérer ce qu'on va utiliser, le bon matériel.
Et c'est là qu'on voit avec vous, Sylvain Châtier, les points négatifs, disons, pour aller s'installer sur la Lune, par exemple. Il y a les rayons. Comment vous appelez ça déjà
les rayons cosmiques.
Oui, alors il y a les rayons cosmiques, c'est ça.
C'est les mêmes.
C'est la même chose.
C'est la même que sur Mars ou que.
C'est un problème de champ magnétique aussi.
Pareil, ouais, la Lune n'a aucun champ magnétique, donc. La Mars en a un très faible et la Lune n'en a pas du tout.
Mais ça veut dire que les combinaisons que portent les astronautes, elles ne peuvent pas les protéger durablement des rayons cosmiques. Il faudrait qu'elles soient hyper épaisses, ou dans des matériaux qui fait qu'on ne pourrait pas se déplacer.
Exactement, il faudrait que ce soit blindé, donc très très lourd. La meilleure preuve, c'est que les astronautes qui sont sur la station spatiale, quand il y a un orage magnétique solaire qui apporte des particules dangereuses comme ça, ils leur demandent de rentrer dans la station spatiale, qui elle est plus blindée que leur scaphandre.
Ah, et on peut les détecter donc.
Ah, bien sûr, on les détecte en avance, ce qu'on appelle la météo spatiale d'ailleurs.
Ouais.
On regarde le soleil et on voit des éruptions solaires et c'est ça qui amène les particules énergétiques dangereuses, les rayons cosmiques, qui provoquent les mutations. Donc en effet, on les détecte à l'avance et ça, c'est un très gros travail qui existe actuellement pour protéger même les satellites, pas seulement les astronautes, mais aussi les satellites qui peuvent avoir des problèmes avec ça.
On pourrait imaginer dans notre maison lunaire, là, dans notre mission lunaire, avoir une salle, je sais pas, en sous-sol qui nous protégerait et quand les rayons cosmiques arrivent, on va se planquer, quoi, d'une certaine façon.
C'est ce qu'il faudrait faire, sûrement, oui.
Ouais.
Ah, bah, il a fond, Thomas.
Une idée,
non, mais attendez,
moi je veux y aller là.
Non, mais c'est très sympa, mais il y a un problème parce qu'il y a plein de cratères quand même sur la Lune. C'est les météorites
partout,
qui font ça.
Ils tombent tout. Ouais, il y en a tout le temps qui tombent comme sur la Terre d'ailleurs. Il y a autant de météorites.
Ah,
il y a
autant,
même plus de météorites qui tombent sur la Terre que sur la Lune.
Ah, on a l'impression que la Lune elle est complètement trouée.
Parce qu'il n'y a pas d'érosion sur la Lune. Il pleut jamais, il n'y a pas d'atmosphère. Donc les cratères qui sont là, qui se font, qui se créent, ils sont là pour toute la vie de la Lune.
Bon, on met la Lune de côté, pourquoi pas. Il y a aussi les planètes géantes, Sylvain Châtier. Il y a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Est-ce qu'elles pourraient nous accueillir? Elles sont immenses, assez séduisantes.
Celles-là, on peut les oublier tout de suite. C'est que du gaz avec une pression très forte. Donc quand vous tombez dedans, vous tombez jusqu'en bas et vous êtes écrasé par la pression.
D'accord.
C'est invivable.
Mais il y a leurs satellites. C'est-à-dire d'autres planètes qui tournent autour de cette planète, c'est
tout
ça?
Tout à fait. Il y a des satellites autour de planètes géantes qui, eux, peuvent être vivables. Enfin, en tout cas, on peut imaginer des choses intéressantes. Il y a par exemple, il y a Europe autour de Jupiter, il y a Titan, Oncelade autour de Saturne. Et là, ce sont des satellites qui peuvent être en effet intéressants. Titan, typiquement, c'est un satellite qui est super intéressant parce qu'il y a une atmosphère. C'est le seul qui a une atmosphère. Alors, il fait -180 degrés, il ne fait pas chaud. Et il y a beaucoup de méthane. Donc, on pense qu'il y a des océans de méthane sur Titan, ce qui fait que vous pouvez imaginer vous baigner, si vous aimez bien, vous baigner à -180 degrés, vous pouvez vous baigner dans un océan de méthane.
Mais c'est quoi le méthane? Rappelez-nous ce que c'est.
Le méthane, c'est le gaz de ville,
de gaz de ville,
voilà,
ça, vous me proposez ça.
Vous êtes un bon agent immobilier, définitivement.
Je ne sais pas, Thomas, j'ai un peu des soupçons quand même.
Bon.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, sur RTL.
Je peux vous fournir le meilleur timonier de la flotte.
Vous parlez du lieutenant Malloy.
Il est certain que Gordon a fait quelques erreurs.
C'est lui qui a dessiné un pénis sur l'écran de contrôle de l'avant-poste T-85.
Il a dessiné beaucoup de pénis sur beaucoup de choses.
La curiosité est un vilain défaut.
Il y a combien de vaisseaux dans la flotte maintenant?
Environ 3000 répartis dans tout le cadran. Ce qui, quand tu penses à la taille de la galaxie, n'est pas... C'est quoi ça? C'est une bière?
Ouais.
Tu bois une bière?
Ouais, je suis stressé, c'est un nouveau bâtiment. Je veux faire bonne impression.
Mais c'est le matin, il est 9h15.
Mise en de notre réalisateur François Touchard. C'est quoi The Orville?
C'est une série créée par Seth MacFarlane, une série parodique un petit peu de Star Trek humoristique qui est sortie il y a 2 ans. C'est toujours en production, la 3e saison.
Ils ont l'air très cool. Hein,
ouais. Oui, ils sont très cool.
Bon, on aime bien ça.
La bière, c'est déjà pas mal.
On explore l'espace à la recherche d'une planète qui serait suffisamment sympa à vivre pour nous accueillir avec l'astrophysicien Sylvain Chatty. Vous travaillez à l'Université de Paris. D'ailleurs, on fait le tour un peu, on blague, on dit que vous êtes notre agent immobilier spatial, on découvre les planètes, on a vu que Mars était compliqué, la Lune, bon, pourquoi pas. Les grandes planètes, Jupiter, Saturne et tout ça, c'est bien trop grand, bon, ça, et c'est du gaz surtout, donc ça marche pas. Mais est-ce qu'on a le droit de s'approprier une planète comme ça, parce qu'on a l'air de pouvoir avoir le monde à nous, mais est-ce que les humains peuvent aller s'installer où ils veulent ?
Oui, c'est une bonne question. Alors, il y a eu le traité de l'espace fin des années 60, 1967, qui en fait a stipulé qu'on ne peut pas s'approprier une planète ou un corps céleste. On peut l'exploiter, mais à des fins pacifiques. On ne peut pas y faire des tests nucléaires, on ne peut pas faire des choses comme ça. Et c'est pour ça que les... en fait, donc 67, c'est juste avant l'alunissage, hein, c'est 2 ans avant l'alunissage. Ouais. Et donc, quand les Américains ont posé le drapeau, ce n'était pas un acte d'appropriation. C'était juste pour montrer qu'ils étaient arrivés les premiers, mais ce n'était pas un acte d'appropriation de la Lune. Ils ont jamais... ils ont bien précisé ça, d'ailleurs.
Donc, on a le droit d'aller s'installer où on veut. De toute façon, qui peut nous empêcher de...
Alors ça, c'est le traité de l'espace de 1967. Il ouais. Y a eu un nouveau... un acte en fait qui a été écrit par le Space Act a été écrit par les Américains donc de façon unilatérale qui leur donne le droit de s'approprier certaines parties de certains corps célestes.
Ils sont forts, ces Américains.
D'exploiter, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas propriétaires de la planète, mais ils pourraient en exploiter le sol.
Exactement. À partir du moment où ils exploitent les ressources sont à eux, donc ils en font ce qu'ils veulent. Donc en fait, ça correspond un peu à une appropriation.
Des morceaux de planète.
Est-ce qu'il y a beaucoup de scientifiques, parce que vous publiez ce livre, La colonisation de l'espace chez CNRS Éditions, mais est-ce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur des projets concrets? Vous nous avez dit Elon Musk, 2050 Mars, ça vous fait rigoler. Enfin, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais c'est ce qu'on a compris. Est-ce qu'il y a des projets concrets de colonisation? On est dans la théorie encore, c'est ça?
Disons qu'il y a, pour l'instant, il n'y a aucune agence spatiale sérieuse qui travaille sur des projets de colonisation. Il y a des projets de faire retourner des gens sur la Lune. Pourquoi pas d'essayer de... Pour l'instant, les projets qui existent, par exemple, c'est de mettre des robots sur Mars. Ça existe, c'est concret. Ouais. Il n'y a pour l'instant aucun projet concret d'envoyer un homme sur Mars.
Et la Lune pourrait servir quoi de base arrière pour aller sur Mars, c'est ça ?
C'est un peu l'idée. Alors il y a tout le projet américain lié à Artemis qui en effet prévoirait d'envoyer de nouveau des hommes sur la Lune. Mm-hmm. Et pourquoi pas à partir de là, parce que c'est plus facile de décoller de la Lune que de la Terre, d'essayer d'aller sur d'autres planètes dont Mars.
Aller coloniser comme ça une planète, c'est un nom, je crois, dans votre jargon d'astrophysicien. On dit pas la
terraformation, c'est autre
transformer
chose.
La planète,
exactement.
C'est ça, pour qu'elle devienne vivable.
On peut coloniser sans terraformer, on peut coloniser Mars, aller sur ou la Lune.
C'est impossible.
Bah si, ça veut dire que vous restez avec vos scaphandres, vous êtes dans des bases, voilà, vous sortez.
C'est quoi la terraformation?
La terraformation, c'est là vous modifiez complètement la nature de la planète.
C'est possible ça? Par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse vivre sur Mars?
Bah, il faudrait augmenter la température, il faudrait changer la composition de l'atmosphère.
Faut prendre un bon fournisseur d'énergie, c'est ça?
En fait, ça veut dire qu'il faudrait injecter, par exemple, beaucoup de CO2, beaucoup de méthane dans l'atmosphère pour augmenter l'effet de serre, ou de l'oxygène aussi pour que ça devienne respirable.
C'est
totalement théorique pour l'instant, ça.
Pour l'instant, ça n'a jamais été fait.
Bah, oui.
De toute façon, ça reste complètement théorique, oui. Beaucoup de scientifiques, d'experts disent que c'est sûrement pas possible. Mmh. Et de toute façon, ça prendrait longtemps. C'est de l'ordre de la centaine de milliers d'années, une terraformation. Donc, c'est pas un projet à court terme.
Bon, nous, on veut voyager tout de suite. Vénus, ça peut être une destination.
Ça vous semble séduisant, ça, Vénus, hein?
Déjà, le nom, j'aime bien.
Oui. Voilà, tout à fait. Ouais. De toute façon, dans les années 60, on pensait que c'était une planète avec une végétation luxuriante. Donc, on y croyait vraiment. Ouais. Si vous avez aimé les autres planètes, vous adorerez Vénus.
Ah.
Parce que Vénus, c'est 450 degrés à la surface. 90 fois la pression atmosphérique terrestre.
Et ça veut dire quoi la pression atmosphérique?
Ça veut dire que vous êtes aplati. Dès que vous arrivez sur Vénus, vous êtes aplati comme une crêpe sur Vénus.
Ou... Écrasé.
Et il y a des pluies permanentes d'acide sulfurique.
Sulfurique, ça décompose le corps.
Donc il fait chaud, vous êtes écrasé comme une crêpe et décomposé.
Ça va Thomas?
Oui, ça. Je sais pas parce que j'ai visité. Pour l'instant, je mets une option sur la Lune. C'est ce qui me semble plus. Le plus probable, ça veut dire que, bon, moi, 50 balais et quelques, j'irai pas en touriste, mais on peut imaginer que la génération d'après pourra faire des voyages touristiques sur la Lune, par exemple. Vous y croyez à ça?
Honnêtement, je ne sais pas quoi répondre. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Dans les années, quand on est allé sur la Lune en 1969, oui, on ne pensait pas que 50 ans plus tard, on n'irait plus. Oui. Donc, je ne sais pas trop quoi répondre à une question comme ça.
Vous avez publié ce livre, La colonisation de l'espace, chez CNRS Éditions. Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? C'est la fantaisie? C'est le fait de voyager, de découvrir ces planètes, de se projeter?
En fait, moi, ce qui m'a amené à ça, c'est plutôt la recherche de comment la vie est apparue sur Terre, oui, et quelles sont les conditions des autres planètes pour que de la vie ait pu apparaître. C'est plutôt ça qui m'a amené à ça.
Qu'est-ce qui manque aux autres planètes alors, hein?
Eh ben, tout ce qu'on a dit, c'est une des températures qui, ouais, correspondent pas aux températures pour que la vie se développe, le fait qu'il n'y ait pas de protection avec les rayons cosmiques, le fait qu'il y ait de l'acide sulfurique, des choses comme ça.
Mais ce qu'on recherche aussi dans ces missions spatiales, c'est la trace de vie antérieure, c'est ça?
Exactement, tout à fait. Par exemple, sur Mars, toutes les missions sont basées sur ça, c'est-à-dire qu'on essaie de rechercher s'il y a eu des traces de vie avant, mm-hmm, qui ont existé, ou même s'il y a encore des traces de vie actuellement.
C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas trouvé ça, de bactéries.
Pour l'instant, on n'a trouvé aucune trace, ouais, de vie en dehors de la Terre. Aucune.
Aucune.
Aucune, en dehors de ce qu'il y a sur Terre.
Statistiquement, il y en a forcément ailleurs.
Ben, c'est un peu ce qu'on se dit, oui, tout à fait. Il y a une science qui s'appelle l'exobiologie qui essaie de voir comment est apparue la vie sur Terre et, ouais, si les conditions autre part pourraient être présentes pour que de la vie apparaisse. Oui.
Mais Sylvain, s'il y a de l'eau sur une planète, il y a forcément des bactéries, non?
Non.
Non? Pourquoi?
Il peut y avoir de l'eau sans bactéries.
Pourquoi? Comment c'est possible? Parce que nous, dans notre eau, il y a des bactéries.
Parce que pour qu'il y ait
des
bactéries, il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'autres éléments. Il faut qu'il y ait du carbone, de l'oxygène, ouais, de l'azote, du phosphore, du soufre, enfin, beaucoup d'autres atomes qui aient le temps de s'assembler, l'énergie suffisante. Donc on pense qu'en effet l'eau est un bon vecteur, mais c'est pas...
Donc c'est de l'eau stérile qu'on peut trouver sur...
On peut trouver de l'eau stérile. Après, on a des satellites, on a trouvé des océans sous la glace, ouais, avec de l'eau salée, donc comme dans nos océans. Donc là, on se dit peut-être qu'il y a de la vie qui peut apparaître sur ces satellites-là.
Bon, leçon, prenons bien soin de notre planète.
Oui,
on n'est,
oui,
pas prêt de pouvoir déménager. Aimons notre planète. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
C'était passionnant, Sylvain Chatty. Je rappelle que vous êtes astrophysicien à l'Université de Paris et que vous publiez La colonisation de l'espace. C'est chez CNRS Éditions. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.